permis de travail, permis d'études, demande d'asile, visa de visiteur, visa d'étudiant, carte de citoyenneté, carte de résidence ou tout autre dossier concernant l'immigration, François Jean Denis est là pour vous conseiller et vous servir. Rendez-vous au 5350 rue Jean Talon Est, entre Vio et La Cordère. Téléphone 438-876-93-98. 438-382-93-98. Vision Max Service pour des services à la hauteur de vos attentes. Désormais, tous les samedis, de 7h à 8h du matin, Vision Max Service vous livre toutes les informations nécessaires sur l'immigration sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Tout savoir sur l'immigration avec François Jean-Denis, consultant accrédité en immigration au Canada.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission « Tout savoir sur l'immigration ». Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration. Nous saluons tous ceux qui sont à l'écoute actuellement. Vous êtes très nombreux sur les médias sociaux ou bien dans d'autres stations de radio. Vous suivez votre émission parce que vous voulez avoir des informations sur ce qui s'est passé. Et vous voulez également avoir des conseils relatifs à vos préoccupations. La semaine dernière, comme vous savez, le gouvernement américain a décidé de suspendre temporairement les renvois à la suite de la décision d'un juge. Pour beaucoup d'entre vous, c'est un ouf de soulagement parce que vous ne saviez plus à quel sein vous vouez. On insiste beaucoup sur le caractère temporaire de cette décision. On connaît maintenant Donald Trump, on sait que peut-être il va changer de décision. Et c'est pourquoi vous devriez vraiment réfléchir avant de décider, avant de savoir si oui ou non vous rentrez au Canada ou bien si vous allez rester aux États-Unis. Et cette décision-là, vous ne pouvez pas la prendre seule ou vous ne pouvez pas la prendre avec des personnes qui ne connaissent absolument rien en immigration. Vous devez soit parler à des avocats aux États-Unis ou bien vous devez contacter des personnes qui peuvent vous donner de bons conseils à ce niveau-là. Notre travail à travers ce micro consiste à éclairer vos lanternes, à vous dire ce qui se passe en immigration au Canada. Nous ne sommes pas spécialisés en immigration aux États-Unis. On ne peut pas vous aider à ce niveau-là, mais cependant, pour ce qui a trait à l'immigration au Canada, nous sommes capables de vous donner tous les conseils appropriés afin de prendre les bonnes décisions. Notre boussole, comme vous savez, c'est la loi sur l'immigration. Nous allons continuer à la suivre, nous allons continuer à vous donner l'heure juste. À cette émission, comme d'habitude, nous allons vous donner des nouvelles dans la première partie. Ensuite, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Et à la dernière partie, nous allons parler encore de la question des demandeurs d'asile, des réfugiés. Parce que cette semaine, on nous a dit que plus d'un tiers des demandeurs d'asile qui arrivent ici au Canada sont venus au Québec. On a eu plus de 2000 demandeurs d'asile seulement pour le mois d'avril 2025. Alors vous comprenez qu'il y a beaucoup, beaucoup de discussions qui se font et ensuite on est à la période électorale. Lundi prochain, ça va être le jour des élections pour ici et pour le Canada. Alors, on comprend qu'il y a des tensions de part et d'autre. Alors, on va prendre la première pause à l'émission. Tout de suite après, on va y revenir pour le développement de tous ces points. C'est promis.
Vision Max Service pour toutes les démarches auprès des bureaux d'immigration au Canada. François Jean-Denis, consultant accrédité en immigration au Canada, vous donne l'heure juste et vous accompagne dans vos démarches jusqu'à l'obtention de vos papiers. Dossier de résidence, permis de travail, permis d'études, demande d'asile, visa de visiteur, visa d'étudiant, carte de citoyenneté, carte de résidence ou tout autre dossier concernant l'immigration, François Jean-Denis est là pour vous conseiller et vous servir. Rendez-vous au 5350 rue Jean Talon Est, entre Vio et La Cordère. Téléphone 438-876-93-98. 438-382-93-98. Vision Max Service pour des services à la hauteur de vos attentes. Désormais, tous les samedis, de 7h à 8h du matin, Vision Max Service vous livre toutes les informations nécessaires sur l'immigration sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Tout savoir sur l'immigration avec François Jean-Denis, consultant accrédité en immigration au Canada.
Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. 438-876-9398, 438-382-9398, 438-385-9398. Nos heures de bureau sont du lundi au vendredi de 9h à 5h. Et notre adresse se trouve au 5350 de la rue Jean-Talon-Est à Saint-Léonard. Vous avez le site internet www.visionmaxservice.com. Si vous voulez avoir une consultation, il y a un onglet est prévu pour ça. Vous pouvez prendre le rendez-vous et nous allons faire de notre mieux pour vous contacter. Si vous avez un message à envoyer sur WhatsApp, c'est 438-876-9398. On ne reçoit pas de documents sur WhatsApp et on fait un autre appel sur sur la façon de procéder quand vous voulez nous rejoindre après les heures de bureau. La semaine dernière, c'était la semaine pascale. On a vu comment. Et même le vendredi saint, même samedi de l'eau bénite, même le dimanche de Pâques, vous appelez et vous voulez trouver quelqu'un à qui vous devriez parler. Mais c'est sûr que ce n'est pas sérieux parce que un dimanche de Pâques, vous appelez et vous dites que vous avez une urgence. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous un dimanche de Pâques avec une urgence? Alors, il faut aussi donner un peu de temps. On a besoin de repos également. Ça veut dire un bureau fonctionne, il a des heures bien déterminées. Si vous avez quelque chose à faire, vous devez attendre. Si le lundi de Pâques, c'était un jour férié, alors si au bureau, on affiche que c'est férié, vous ne pouvez pas continuer à sonner à la porte, vous ne pouvez pas continuer à venir. C'est un bureau comme tous les autres. Vous n'allez pas à Hydro-Québec un dimanche de Pâques. Vous n'appelez pas à Bell Canada un dimanche de Pâques. Il faut respecter ça parce qu'on a aussi droit au repos. Si vous êtes en congé, nous le sommes également. Alors vous devez au moins respecter cette partie-là. Les heures de bureau sont du lundi au vendredi. Et si vous avez quelque chose à faire, vous appelez ou bien vous envoyez un message. Vous pouvez aussi envoyer un message. On a une adresse courriel fjeandenis@commercial.gmail.com. Vous suivez ces principes-là. Et c'est comme ça que vous allez nous aider. Parce que vous ne pouvez pas nous envoyer un message un vendredi saint et vous nous dites que vous avez une urgence. C'est quoi cette urgence-là? On ne comprend jamais cette partie-là. Vous nous dites que vous avez une urgence. On espère que vous allez collaborer avec nous parce qu'on veut vous aider, mais sans votre collaboration, ce sera impossible. On commence avec les nouvelles. On parle de citoyenneté. Pour les personnes qui, vous vous rappelez, on avait parlé de cette décision de la Cour de l'Ontario qui disait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu des services parce que surtout pour des enfants qui sont nés à l'étranger, on avait limité, jusqu'à présent c'est le cas, on limite la citoyenneté à la première génération. Ça veut dire que si vous avez un enfant qui est né à l'étranger et si vous étiez déjà citoyen canadien, vous pouvez octroyer la citoyenneté à cet enfant-là. Mais cet enfant-là n'a pas le droit de donner la citoyenneté à son enfant qui serait né des années plus tard. On limite ça à la première génération. Alors, la Cour de l'Ontario, le 19 décembre 2023, avait déclaré qu'effectivement, ces règlements-là étaient inconstitutionnels et on avait demandé au gouvernement canadien de prendre des décisions de corriger cette lacune-là. Alors, le gouvernement est en train de régler cette question et actuellement, si un enfant a eu la citoyenneté à partir de son père, et lui également a un enfant né à l'étranger, ça veut dire qu'on admet que la personne peut faire la demande et ça va être à la discrétion du ministre en vertu du paragraphe 5.4. Ça veut dire que pour les personnes qui sont nées le 19 décembre 2023 ou après cette date, on va envoyer une lettre au demandeur pour lui offrir la possibilité de prendre en considération son dossier. Et cet agent-là va déterminer si oui ou non le parent a un lien substantiel. Le parent a accumulé 1095 jours de présence effective au Canada avant la naissance ou l'adoption de l'enfant. Ça veut dire qu'au niveau d'Immigration Canada, on n'a pas encore réglé la question, mais on donne la possibilité. Si une fois que vous qui avez eu la citoyenneté à partir de votre père, si maintenant vous avez accumulé 1095 jours, on voit que vous avez un lien substantiel au pays, on peut prendre en considération votre dossier. Et si votre demande est approuvée, on va vous donner la citoyenneté. Si c'est refusé, on va vous le dire également. Alors, on trouve que, en attendant, le gouvernement fait de son mieux pour essayer de résoudre cette situation-là. Parce que pour la Cour supérieure de justice de l'Ontario, il y a eu des abus. Ça n'a pas été correct. Ça veut dire que le fait d'empêcher à des enfants de citoyens canadiens de deuxième génération, de troisième génération, d'avoir accès à la citoyenneté. On passe à un autre dossier, le dossier du jour, le dossier de la semaine, c'est que on apprend que le Québec a reçu le tiers des demandes d'asile au pays depuis le début de l'année. Et on nous dit que le poste frontalier de Saint-Bernard-de-la-Colle a vu passer 2094 demandeurs d'asile entre le 1er et le 20 avril 2025. Il y a eu 2094 personnes qui sont venues au Québec pendant ces 20 jours-là. Imaginez, seulement pendant 20 jours. Alors, le Québec concentre une part grandissante des demandes d'asile déposées au Canada. Selon les plus récentes données d'Immigration Canada publiées jeudi, la province a reçu 9 225 des 28 800 demandes déposées entre janvier et mars, soit 32%. Mais les données d'avril laissent entrevoir une accélération marquée. En date du 20 avril, 64,7% des demandes traitées au pays l'avaient été au Québec, selon les données de l'Agence des services frontaliers du Canada. À lui seul, le poste frontalier de Saint-Bernard-de-la-Colle a vu passer 2094 demandeurs d'asile entre le 1er et le 20 avril, une hausse spectaculaire comparée aux 443 demandes enregistrées à la même période en 2024. Depuis le début de l'année, le nombre d'arrivées à ce point d'entrée augmente chaque mois, 560 en janvier, 755 en février, 1356 en mars. Une tendance qui s'inscrit dans un contexte de pression croissante sur les services frontaliers. Et pour faire face à cette situation-là, des ressources supplémentaires ont été mises en place pour assurer la gestion sûre et sécuritaire de la frontière, a indiqué l'Agence fédérale par courriel. Malgré cette augmentation des entrées terrestres au Québec, le nombre total des demandes d'asile au pays est en net recul par rapport à l'an dernier. En date du 20 avril 2025, l'Agence des services frontaliers avait traité 11 232 demandes contre 22 448 à la même période en 2024, une baisse de 50%. Ce ralentissement s'explique en partie par la diminution des arrivées par voie aérienne. L'an dernier, un plus grand nombre de demandeurs d'asile entraient au Canada avec un visa de visiteur ou d'études avant de déposer leur demande sur le territoire, principalement à Montréal et à Toronto. Le Québec n'échappe pas à cette tendance. 7264 demandes y ont été traitées depuis le début de l'année contre 12 728 à pareille date en 2024. Pendant ce temps, les renvois vers les États-Unis se poursuivent à un rythme soutenu. Entre le 1er janvier et le 22 avril, 1281 demandeurs d'asile ont été refoulés à la frontière parce qu'ils ne satisfaisaient pas aux critères d'exception prévus par l'entente sur les tiers pays sûrs. Cette entente, comme vous savez, qui a été modifiée en mars 2023 entre le président Biden et M. Trudeau, et continue à être appliquée à l'ensemble de la frontière canado-américaine. Elle oblige les demandeurs à déposer leur dossier dans le premier pays sûr où ils arrivent, sauf exception. Le gouvernement fédéral compte intensifier encore les renvois. Le nombre d'expulsions exécutées par l'agence a doublé entre 2021 et 2022 et 2023-2024, passant de 7539 à 16336. Ottawa vise désormais 20 000 renvois annuels d'ici 2026 dans le cadre de son plan frontalier. Monsieur François Legault, le premier ministre du Québec, veut voir le plan des chefs fédéraux. À quelques jours du vote pour les élections fédérales, le premier ministre du Québec réitère sa demande aux chefs fédéraux de présenter un plan pour réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires au Québec. Plus de 2000 demandeurs d'asile se sont présentés au poste frontalier de Saint-Bernard-de-la-Colle au cours du mois d'avril. Je pense que les Québécois ont le droit de savoir des chefs fédéraux d'ici lundi qu'est-ce qu'ils font pour arrêter le flux de 2000 dans un même mois. Qu'est-ce qu'ils font pour réduire la moitié du nombre d'immigrants temporaires qu'on a au Québec? Et les chefs fédéraux n'ont pas de contrôle sur l'arrivée de ces demandeurs d'asile. Alors, c'est ça la situation. M. Legault dit comprendre que ces gens-là veulent vivre au Québec pour améliorer leur sort. Ils sont inquiets de ce que dit Donald Trump aux États-Unis, mais le Québec a déjà dépassé sa capacité d'accueil. Et M. Legault a un peu nuancé ses propos, contrairement à son ministre de l'Immigration qui disait avant que le Québec ne peut pas accepter toute la misère du monde. Alors, on rappelle qu'il y a à peu près 600 000 immigrants temporaires au Québec. On apprend également qu'il y a des enfants détenus des semaines aux États-Unis après avoir été retournés par le Canada. Le Canada renvoie de plus en plus de demandeurs d'asile vers les États-Unis et ils sont détenus de plus en plus systématiquement, y compris des familles avec de jeunes enfants. Ça veut dire que quand quelqu'un décide de passer à la frontière et ne répond pas aux critères, le Canada demande à la personne de retourner. Mais apparemment, il y a eu les agents des services américains ont détenu des personnes qui voulaient entrer au Canada. Alors, est-ce qu'ils ont eu des informations bien déterminées sur ces personnes-là? Parce que normalement, lorsque le Canada demande aux gens de retourner, il n'y a pas eu de problème. OK? Je vous le dis, on a l'article qui est sorti, mais cependant, jusqu'à date, on sait que si quelqu'un passe à la frontière et ne répond pas aux critères, il peut retourner aux États-Unis. Alors, le Canada se rend ainsi complice du durcissement des politiques au sud de la frontière, soutient l'avocate en immigration, Heather Neufeld, qui représente une famille. On dit que ces cas se multiplient depuis quelques semaines. L'Agence des services frontaliers du Canada affirme avoir renvoyé 1281 demandeurs d'asile vers les États-Unis, soit le nombre le plus élevé en une décennie, nous écrit une porte-parole. Parmi eux, des enfants de 6 et 8 ans du Venezuela détenus durant 3 semaines dans une pièce au mur nu et sans fenêtre, puis 3 autres semaines dans un centre au Texas. Alors, on sait que les Américains, ils ont beaucoup de problèmes avec les Vénézuéliens parce qu'on pense qu'il y a des groupes criminels qui utilisent ces migrants à des fins criminelles. Mais ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent. Alors, pour d'autres avocats, cet exemple-là illustre une application de l'entente de plus en plus stricte à l'heure où plusieurs appellent le Canada à s'en retirer, ne considérant plus les États-Unis comme un pays sûr. Et l'Agence des services frontaliers affirme, quant à elle, examiner chaque demande d'asile à la frontière avec attention, y compris par une entrevue, afin de décider si elle est recevable. Dans le cas contraire, la personne est généralement renvoyée aux États-Unis le jour même de la décision, nous écrit un porte-parole. Alors, c'est pourquoi ce que je viens de vous dire là est confirmé. On ne remet pas les migrants aux autorités américaines pour décider de leur sort. On accompagne les migrants pour qu'ils puissent retourner aux États-Unis. Et si jamais il y a des agents américains qui interceptent d'autres migrants et les placent en détention, ce n'est pas la décision du Canada. Alors, pour ceux qui veulent entrer, et ensuite, avant de décider d'entrer ici au Canada, vous devez vous assurer que vous répondez aux critères, que vous faites partie de l'entente de cette exception sur l'entente sur les pays sûrs, et que vos documents sont vraiment authentiques. Et on apprend aussi que l'improvisation en immigration au Canada, ça crée beaucoup de problèmes. Et on dit l'imprévisibilité des programmes d'immigration nuit à l'économie, aux immigrants et aux personnes qui travaillent avec eux. C'est le message véhiculé lors d'une table ronde à l'Université Laval portant sur les réductions, moratoires, coupures et menaces en matière d'immigration. Le président et chef de la direction de la Chambre de commerce de l'industrie du Québec, Frédéric Boisvert, considère que l'économie du Québec sera blessée par la politisation des travailleurs étrangers temporaires et des mesures en matière d'immigration qui s'apparentent à de l'improvisation. Par exemple, on dit que Ottawa a revu à la baisse ses cibles d'immigration permanente, a diminué le taux de travailleurs étrangers temporaires dans les entreprises. Québec a suspendu ses programmes d'immigration permanente à l'automne et décrété une baisse du nombre d'étudiants étrangers en février. Les consultations sur la planification de l'immigration du Québec servant à fixer des cibles pour 2026 et les années suivantes devraient avoir lieu ce printemps, mais elles ont été repoussées. Pour M. Boisvert, il faut arrêter ça. Il faut arrêter d'improviser et donner une stabilité à long terme à ces programmes-là, dit-il. Il prévient que Québec verra son poids démographique diminuer au sein du Canada et que des défis de main-d'œuvre guettent la province en raison des retraites des baby-boomers. Il va y avoir de graves pénuries de main-d'œuvre. Les gouvernements vont être forcés de changer leur politique de manière précipitée. Ça va être fait pas dans l'ordre. Ça va être un vrai cafarnaüm, avertit-il. Si au cours des 7 premiers trimestres, il y a de moins en moins de postes vacants, le Québec en comptait toujours plus de 121 000 à la fin de 2024. Et M. Boisvert associe la baisse de l'immigration à la baisse de la côte du Québec. Il souligne que la décote du Québec par Standards & Poor's Global la semaine dernière a été en partie due au ralentissement de sa croissance démographique. C'est parce qu'on accueille de moins en moins de gens de l'extérieur et ça c'est un méchant problème à terme dans le modèle social qu'on s'est donné et qui demande une bonne base de payeurs de taxes, soutient-il. Alors selon lui, la politisation de la présence des travailleurs étrangers temporaires est la pire chose que le Québec peut faire actuellement. C'est un virus qui doit sortir de notre corps parce que ça va nous causer notre perte économique. Et pendant la campagne électorale, tous les leaders, ils promettent de construire des maisons. Mais pour construire des maisons, ça prend des techniciens. Alors comment est-ce qu'on va trouver ces techniciens-là si on réduit le nombre de travailleurs étrangers temporaires? Alors des fois, on dit une chose d'un coin de la bouche et on fait une autre chose de l'autre coin. Ça veut dire que c'est vraiment bizarre. On ne peut pas faire avancer l'économie d'un pays, d'une province, si on n'a pas des travailleurs pouvant payer des taxes et pouvant faire avancer l'économie. Il y a une proposition qui a été faite aussi aux chefs fédéraux. On leur dit qu'ils peuvent aller chercher 15 milliards de dollars avec l'immigration. Alors, on dit que le Canada traverse une crise commerciale sans précédent. Les répercussions sur l'économie et les finances publiques sont déjà perceptibles. Tous les partis proposent des solutions pour contrer cette menace en pleine campagne électorale. Il existe une avenue simple, rapide et peu coûteuse pour générer d'importants revenus, notamment auprès des particuliers. Et on nous dit que le Canada disposait de 2 programmes d'immigration pour investisseurs. Un programme fédéral, un programme spécifique au Québec. Alors on dit qu'en échange d'une contribution financière significative, ces programmes octroyaient la résidence permanente aux investisseurs étrangers, attirant ainsi des milliards de dollars au pays. Mais depuis 2014, le gouvernement fédéral n'accepte plus de nouvelles demandes. Quant au programme québécois, il est pratiquement à l'arrêt en raison d'exigences linguistiques accrues. Alors, on dit que le Canada pourrait mettre sur pied un programme pilote de 5 ans. On accepte 6 000 demandes par an, okay? 3 000 pour le programme fédéral, 3 000 pour Québec, soit 30 000 dossiers sur 5 ans. Et on demande des frais de traitement de 20 000 $ par demande. Okay? 6 000 demandes par an, ça fait 30 000. Et on demande 20 000 $ par an. Et chaque investisseur devra verser 500 000 $ au gouvernement fédéral ou du Québec non remboursable. Et le calcul se fait avec ça. Et le gouvernement canadien pourrait générer plus de 15 milliards de dollars en frais et contributions financières. Vous voyez, ça c'est une solution très simple. Alors, on a l'intention de réduire le déficit. Voilà que là, dans cette situation-là, on fait venir 6 000 personnes par année. Ce sont des investisseurs, des gens qui peuvent travailler et qui peuvent aider à faire avancer l'économie ici au Canada. Et ensuite, on a les métallos qui demandent au gouvernement québécois de pouvoir aider les travailleurs étrangers temporaires. Parce que si on garde le statu quo, c'est sûr que ça va faire couler l'économie du Québec parce qu'on ne veut pas avancer de cette façon-là. Après ça, maintenant, la bonne nouvelle pour les étudiants étrangers, vous savez que le gouvernement du Québec avait décidé d'augmenter les droits de scolarité des étudiants anglophones, les étudiants hors Québec à partir de l'automne et 2025. La Cour supérieure du Québec donne gain de cause aux universités McGill et Concordia qui contestaient l'augmentation des droits de scolarité pour les étudiants étrangers et canadiens hors Québec. La Cour supérieure a jugé jeudi que les nouvelles règles budgétaires pour les universités modifiées par la ministre en 2023 étaient déraisonnables et allaient à l'encontre de sa mission législative en raison de bases factuelles absentes ou erronées. Ces deux universités anglophones ont poursuivi le gouvernement du Québec en 2024 à la suite de la modification des règles budgétaires par la ministre Derry. Les règles contestées proviennent d'une volonté gouvernementale ouvertement déclarée de réduire le bassin des étudiants anglophones provenant de l'extérieur du Québec. En vertu de ces nouvelles règles, les droits de scolarité minimaux ont bondi de 9 000 à 12 000 par année pour les étudiants canadiens qui ne résident pas au Québec et à 20 000 pour les étudiants étrangers. On dit que c'est une atteinte au droit à l'égalité. Et la ministre disait que c'était pour équilibrer l'écart financier entre les universités anglophones et francophones et assurer la rétention. Or, dans la contestation judiciaire, l'université McGill a soutenu que les nouvelles règles de subvention du Québec portaient atteinte au droit à l'égalité garanti par la Charte canadienne des droits et libertés, puisqu'elle discriminait les étudiants anglophones en fonction de leur langue. La hausse des droits de scolarité porterait aussi atteinte à la réputation de McGill sur la scène nationale et internationale, selon les allégations de cette université. L'établissement d'enseignement avait d'ailleurs déjà signalé une baisse du nombre de ses inscriptions un mois après l'entrée en vigueur de la politique en janvier 2024. Dans son jugement rendu jeudi, le juge Éric Dufour de la Cour supérieure donne partiellement raison aux universités anglophones en invalidant deux points litigieux, l'exigence de 80% d'acquisition de compétences en français, qui cesse d'avoir effet immédiatement, l'augmentation des sommes fixées pour les droits de scolarité des étudiants hors Québec que la Cour renvoie à la ministre pour être modifiée dans un délai de 9 mois. La hausse demeurera néanmoins en vigueur entre-temps. Selon les motifs invoqués par le tribunal, bien que l'intention de la ministre d'équilibrer les finances des universités ait tout à fait été valide, elle ne disposait toutefois d'aucune donnée sinon des formations fragiles en évoquant la rétention et l'intégration des étudiants. Très bonne décision et M. Legault et sa ministre vont prendre d'autres décisions pour annuler cette augmentation pour les étudiants vivant hors Québec. Pour terminer, on a un article concernant la situation aux États-Unis. On dit que la course de Trump pour expulser 1 million de personnes est bien entamée. Alors, il avait dit déjà qu'il va expulser beaucoup d'immigrants, mais sa formule a réussi d'après cet article-là parce que Donald Trump menace plus qu'il agit. Et on a eu beaucoup de personnes qui ont quitté les États-Unis et eux-mêmes parce qu'ils ont peur de la menace. On peut voir le cas. Il a fait sortir un communiqué pour dire qu'à partir du 24 avril, les gens qui avaient le statut de TPS, pas TPS, de Biden, le programme humanitaire, devaient quitter. Et on a vu que beaucoup de personnes ont quitté avant cette date. Mais Donald Trump ne les a pas expulsés. Il agit par menace. C'est la même chose pour les gens qui bénéficient du programme temporaire de TPS. Il a dit qu'on va mettre fin à ce programme-là le 5 août et déjà les gens commencent à quitter. Alors, il a une formule qui fonctionne. Il menace et les gens ont peur. Ils quittent. Alors, c'est ça qu'on nous dit. Il va atteindre son objectif d'expulser 1 million de personnes d'ici un an. On s'arrête ici avec les nouvelles. Après la pause, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes et on va parler de demandeurs d'asile, surtout avec la dernière nouvelle des États-Unis. On a suspendu temporairement le renvoi des personnes qui disposaient de la protection ou bien du programme humanitaire de Biden.
Vision Max Service pour toutes les démarches auprès des bureaux d'immigration au Canada. François Jean-Denis, consultant accrédité en immigration au Canada, vous donne l'heure juste et vous accompagne dans vos démarches jusqu'à l'obtention de vos papiers. Dossier de résidence, permis de travail, permis d'études, demande d'asile, visa de visiteur, visa d'étudiant, carte de citoyenneté, carte de résidence ou tout autre dossier concernant l'immigration, François Jean-Denis est là pour vous conseiller et vous servir. Rendez-vous au 5350 rue Jean-Talon Est, entre Vio et La Cordère. Téléphone 438-876-93-98. 438-382-93-98. Vision Max Service pour des services à la hauteur de vos attentes. Désormais, tous les samedis, de 7h à 8h du matin, Vision Max Service vous livre toutes les informations nécessaires sur l'immigration sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Tout savoir sur l'immigration avec François Jean-Denis, consultant accrédité en immigration au Canada.
Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On fait le rappel des nouvelles les plus importantes. D'abord sur la question de visa de visiteur. Pour les gens qui sont à l'étranger, qui veulent faire une demande de visa de visiteur, oui, c'est possible de faire la demande, mais en tenant compte de la politique canadienne des visas, surtout dans certains pays où vous avez le plus besoin de visa, on sait que ce n'est pas facile. Ça, on va continuer à vous répéter ça. Oui, vous avez le droit de faire une demande de visa de visiteur. Vous devez démontrer vos attachements. Or, dans un pays que l'on connaît, où vous n'avez même pas accès à une attestation bancaire, où vous n'avez même pas accès à une lettre de travail, où vous n'avez pratiquement aucune perspective, alors quand vous faites la demande, l'agent d'immigration va dire que votre intention est de quitter le pays et vous n'allez pas retourner. Alors, si vous êtes un peu plus âgé, vous voulez faire une demande de super visa ou bien un visa régulier, oui, c'est possible et on va regarder ça avec vous. On va vous conseiller pour prendre la meilleure décision. Et si vous êtes déjà au Canada avec un visa de visiteur, on vous demande également de prendre des dispositions pour savoir exactement ce que vous devez faire. Normalement, avec un visa visiteur régulier, vous pouvez rester au pays jusqu'à 6 mois, à moins que l'agent d'immigration au point d'entrée ait décidé autrement. Alors, pendant les 6 mois, prenez des conseils pour savoir exactement ce que vous pouvez faire. Ne laissez pas les gens vous dire « Ah oui, aujourd'hui, maintenant, la seule chose à faire, c'est une demande d'asile ou bien on fait une demande de permis de travail ouvert. » Alors, avant de prendre cette décision-là, vous devez savoir si oui ou non ça correspond à votre situation. En immigration, chaque cas est unique. Il n'y a pas de cas généralisé. Ça veut dire que vous allez dire, ah oui, parce que X a fait ça, moi je vais faire ça. Non, c'est faux. Chaque personne peut décider exactement ce qu'elle a l'intention de faire en fonction de son profil, de sa situation et de ses intentions réelles. Alors, ne restez pas au pays sans avoir prolongé votre séjour, parce que si votre séjour est expiré, vous êtes illégal, même si votre visa devait finir dans 10 ans, il y a la différence à faire entre la durée du visa et la durée du séjour. Vous arrivez ici avec un visa régulier, c'est 6 mois maximum. Et si c'est un super visa, vous pouvez rester jusqu'à 5 ans, vous pouvez faire des prolongations. Vous ne savez pas encore c'est quoi vous voulez faire, faites la prolongation. Parce que on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et peut-être que en empruntant les rues, vous pouvez avoir des problèmes avec un policier. Alors, s'il vous plaît, vous qui hébergez des personnes chez vous qui ont des visas de visiteurs, demandez-leur de prendre des dispositions pour prolonger leur séjour en tant que tel. Si vous voulez rester au pays, peut-être que le permis de travail ouvert qui est offert aux ressortissants haïtiens n'est pas la meilleure option, parce que ce permis de travail peut être suspendu à n'importe quel moment. Imaginez une victoire de M. Pierre Poilievre. lui, il peut prendre la décision de fermer ce programme-là. Ce sont des programmes pilotes, des programmes temporaires. Alors, ne pensez pas que vous allez toujours avoir ce permis de travail disponible pour vous. Alors, vous faites attention. Maintenant, ce qui a trait aux demandes de permis d'études, on sait que de plus en plus, la situation est difficile. Les écoles mettent des exigences. Les gouvernements, c'est la même chose. Alors, avant d'être accepté, vous devez présenter des preuves académiques, des preuves financières pour avoir la lettre d'admission. Et ensuite, vous devez faire les démarches pour le permis d'études. Alors, ce qu'on voit souvent, c'est que c'est comme s'il y a des personnes qui viennent étudier et que ces gens-là n'ont pas l'intention de le faire. Et ils viennent ici juste pour faire des demandes d'asile ou bien pour ne rien faire au pays. Ça, il faut arrêter ces pratiques-là parce que vous êtes en train de détruire ou bien d'empêcher à d'autres personnes d'arriver. Une chose importante à signaler, si vous êtes admis au trimestre d'automne, par exemple, vous ne pouvez pas venir au Canada depuis le mois de mars. Même si vous avez le visa de visiteur au mois de mars, au mois d'avril, vous ne pouvez pas parce qu'on va vous poser la question au point d'entrée. Pourquoi vous êtes déjà venu au Canada? Normalement, on s'attend à ce que vous veniez un mois à l'avance à peu près. Alors, l'agent d'immigration va vous demander soit de retourner dans votre pays ou bien de prendre une autre disposition. Et souvent, les gens qui viennent avant ont l'intention de faire des demandes d'asile. Alors, comprenez bien, j'ai vu plusieurs cas. Il y a des étudiants africains, il y a des étudiants latinos. Ils sont venus pour le trimestre d'automne, ils sont déjà au Canada et l'agent d'immigration leur a dit ou bien vous faites une demande d'asile ou bien vous retournez dans votre pays et vous ne pouvez plus retourner. Alors, ça, c'est vraiment compliqué. C'est pourquoi on a cette émission pour vous donner des informations dont vous avez besoin. Vous êtes admis au trimestre d'automne qui commence en août et en septembre. Vous pouvez entrer à partir de juillet ici, mais avant juillet, l'agent d'immigration se réserve le droit de vous empêcher d'entrer. N'oubliez pas, vous avez le permis d'études au point d'entrée. Ce qu'on vous a donné là n'est pas le permis d'études. C'est au point d'entrée que l'agent d'immigration vérifie toutes les informations et vous accepte de rentrer comme étudiant étranger. Et quand vous venez, s'il vous plaît, vous étudiez, parce que si vous ne le faites pas, vous êtes en train d'empêcher, de bloquer l'accès à d'autres étudiants à l'avenir. Maintenant, pour les permis de travail, souvent les gens nous disent ça, ceux qui sont aux États-Unis, est-ce que je ne peux pas trouver un permis de travail au Canada? Oui, c'est possible, mais vous devez trouver une offre d'emploi. Et une offre d'emploi avec toutes les barrières, toutes les limitations des gouvernements fédéraux et provinciaux, c'est très difficile maintenant. Et ensuite, trouver une offre d'emploi, ça dépend de votre formation. Ça veut dire que quand quelqu'un me dit « Ah oui, je sais cuisiner très bien, j'aimerais avoir une offre d'emploi en cuisine. » Non, ce n'est pas, ce n'est pas obligatoire, mais ce n'est pas, ça ne suffit pas pour avoir l'offre d'emploi. Ça veut dire que si vous voulez avoir l'offre d'emploi, vous devez démontrer que non seulement vous avez la formation, vous avez l'expérience, et c'est comme ça que vous pouvez avoir ça. De plus en plus, les employeurs ne veulent pas donner des offres d'emploi aux personnes à l'étranger parce que ça prend du temps, ça prend de l'argent et on n'a pas la garantie que votre demande sera acceptée. Maintenant, si vous voulez faire une demande de renouvellement de votre carte de résidence permanente, de votre et vous voulez appliquer pour la citoyenneté, on peut vous accompagner. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent et faire la citoyenneté pour les enfants à l'étranger. Vous passez nous voir, on va vous expliquer comment procéder. On vient de dire que le gouvernement est plus souple par rapport à ces choses-là. Si ce n'est pas la première génération, on peut faire la demande pour vous et vous allez recevoir une lettre et on va vous demander d'établir ce lien substantiel comme on a expliqué au début. Pour les demandes de résidence permanente, travailleurs qualifiés, si vous voulez faire votre demande de travailleurs qualifiés, soit dans Arima, soit dans Entre Express, oui, c'est possible de le faire. Souvent, les gens me disent que oui, j'ai appris, il y a beaucoup de programmes. Par exemple, il y a un programme pilote pour les préposés aux bénéficiaires. Oui, ce programme existe, mais il y a des exigences. Ce n'est pas parce que ce programme existe que tout le monde peut appliquer. Alors, il y a des exigences à faire. Vous avez le test de français. Vous avez aussi le diplôme à faire évaluer si c'est entré express. Alors, si vous ne répondez pas à ces critères-là, c'est sûr que c'est impossible et à ce niveau. Maintenant, pour ce qui a trait au parrainage de parents, on n'a pas encore la date et il faut attendre l'invitation. Et l'invitation va se faire dans le bassin de 2020, ça veut dire qu'avec les personnes qui ont appliqué en 2020. Et ensuite, pour le parrainage de conjoint, si vous voulez faire votre demande de parrainage de conjoint, tout ce que vous avez à faire, c'est démontrer, savoir que ici au Québec, si vous faites votre demande de parrainage, ça peut prendre jusqu'à 3 ans. Si vous êtes ici au Canada, et ça peut prendre peut-être 2 ans, 2 ans et demi. Et si vous allez dans une autre province, c'est 12 mois à peu près. Alors, c'est à vous de savoir si oui ou non vous allez continuer avec la demande, mais il faut démontrer que la relation, elle est de bonne foi. On a vu quelques personnes ces derniers jours, ces gens-là nous ont dit, oh oui, pourquoi on demande autant de choses? Quand vous demandez à quelqu'un, okay, vous lui demandez de vous donner un service, vous lui demandez de vous accorder un avantage, c'est à la personne de décider ou bien de fixer ses règlements. Il y a eu dans le passé tellement de cas d'abus dans le parrainage, alors les gouvernements ont pris des dispositions pour vérifier. Et vous avez vu, même pour les cas de demandeurs d'asile, on a vu des personnes qui se sont déplacées ici au Canada pour aller aux États-Unis pour se marier avec des gens juste pour leur permettre de traverser la frontière. Ça, c'est vraiment inacceptable. Vous ne pouvez pas faire ça parce que vous êtes en train de mettre en péril les relations ou bien les cas de parrainage sérieux. Parce que quand vous dites à l'agent, j'ai rencontré la personne il y a 2 mois, il y a 3 mois, et maintenant vous êtes déjà marié, vous ne pouvez pas faire ça parce que normalement, on ne peut pas décider de se marier après 2 mois, après 3 mois. Vous faites ça pour régler votre problème, mais vous mettez en péril la vie de beaucoup d'autres personnes qui sont de bonne foi, mais qui malheureusement n'arrivent pas à convaincre l'agent parce qu'il y a eu trop de cas d'abus avec vous. Maintenant, en ce qui a trait aux demandes d'asile, les demandes d'asile, actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont ici. Ces gens-là viennent des États-Unis, il y a d'autres qui sont venus avec des visas. Vous venez, vous faites des demandes d'asile. Mais j'ai noté que jusqu'à présent, ça fait plus que 2 ans qu'on dit la même chose. Les gens continuent à faire leur demande d'asile en disant qu'ils ont peur de l'insécurité en Haïti, qu'ils ont peur de tel chef de gang, et ils n'arrivent pas à comprendre que lorsqu'on fait une demande d'asile, on doit avoir un risque personnalisé. Si ce que vous craignez fait partie de l'ensemble de la population, vous allez être refusé. Parce que j'ai noté de plus en plus, les gens ont l'impression que s'ils traversent la frontière, ils arrivent ici, le problème est déjà réglé. Dans certaines églises, on va leur dire que si l'Éternel, cette terre vous appartient dès que vous avez les pieds plantés là. Mais vous aviez les pieds plantés aux États-Unis, pourquoi cette terre ne vous a pas appartenu? Quand vous étiez aux États-Unis, vous pourriez aussi réclamer cette terre. Alors, comprenez bien ceci. Le fait de traverser la frontière pour venir au Canada, ce n'est pas la fin en soi. Ça ne veut pas dire que votre demande est déjà acceptée. C'est un premier pas. Il y a encore beaucoup d'autres obstacles à surmonter. Et l'obstacle à surmonter, ou bien la chose à faire, c'est la préparation de votre formulaire de demande d'asile. Si dans votre demande d'asile, vous parlez uniquement de l'insécurité en Haïti, ou de l'insécurité dans votre pays, vous passez à côté, votre demande sera refusée. Et même si vous allez en appel, l'appel sera refusé parce que c'est vous qui avez commis l'erreur. Et ensuite de ça, si vous faites, vous devez attendre et pour faire une demande de considération humanitaire. Sachez que dès que votre demande d'asile est refusée, vous n'avez plus de statut. Et même si vous décidez de faire une demande de parrainage. Je viens de vous dire qu'au Québec, ça prend 2 à 3 ans. Même lorsqu'on fait une demande de parrainage, on n'a pas de statut. Le gouvernement peut vous déporter, même si vous avez une demande de parrainage en cours. Le gouvernement peut vous déporter, même si vous avez une demande de considération humanitaire. Que ce soit avec M. Carnet ou bien M. Poilievre, on va continuer à déporter les gens. Alors, c'est sûr que lorsque vous faites votre demande, vous devez démontrer qu'effectivement, vous avez un risque personnalisé. Vous devez regarder votre profil et faire la demande. On a des motifs pour faire des demandes d'asile. Vous êtes persécuté soit à cause de la race, de la religion, de la nationalité, des opinions politiques, de votre groupe social ou bien des menaces à la vie. Mais si vous dites que vous ne saviez pas ce qui se passe dans le pays. Oh, aujourd'hui, on a beaucoup de territoires perdus. Aujourd'hui, les gangs contrôlent et toute la population et tout le territoire. Alors, vous dites ça, ça concerne Jean, ça concerne Pierre, ça concerne Marie, ça concerne Joseph. Ça ne vous concerne pas seulement. Lorsque vous faites votre demande d'asile, la crainte ou bien le problème doit concerner uniquement vous. Et si vous ne le faites pas, de toute façon, je serai là. Et comme en 2017, c'est ce qui est arrivé à beaucoup de personnes. Et elles sont venues, elles n'ont pas écouté les conseils, elles ont fait ça. Et j'ai vu des dizaines de décisions et de la section de protection des réfugiés. Ces gens-là, on leur a dit, et malheureusement, votre demande ne sera pas acceptée parce que le risque auquel vous faites allusion est un risque généralisé, un risque qui concerne l'ensemble de la population haïtienne. Alors, vous comprenez que si vous allez dans cette direction-là et vous allez commettre les mêmes erreurs, imaginez, vous êtes depuis peut-être 5 ans, depuis 10 ans, vous êtes à la recherche d'un statut dans un pays. Il y en a parmi vous qui ont été au Chili, au Brésil. Vous êtes arrivé aux États-Unis. Il y en a parmi vous qui commençaient à fonctionner très bien. Brusquement, M. Donald Trump est arrivé et vous demande de quitter. Si vous êtes arrivé maintenant au Canada, ça devrait être l'étape finale. Parce qu'après le Canada, il n'y a pas d'autre pays où vous pouvez aller. Le pays où vous allez retourner, c'est votre pays d'origine. Quand vous étiez aux États-Unis, vous aviez le choix d'aller au Canada, la possibilité d'aller au Canada. Mais maintenant, après le Canada, c'est votre pays d'origine. Et c'est pourquoi vous ne devez pas écouter ceux qui sont là, les gens qui vous ont hébergé, qui vous ont dit « Ah oui, le gouvernement a donné l'aide juridique et allez-y, et vous n'avez rien à payer. » On dit souvent, c'est que oui, et senti bon coûter cher, et en même temps, si vous dites que vous n'avez rien à payer, vous allez payer beaucoup plus à la fin. Parce que quand vous faites votre demande de n'importe quelle façon, okay, vous racontez des choses qui datent de 2005, 2010, 2012, alors qu'on est en 2025. Quand vous dites ces choses-là et que finalement, au bureau de l'aide juridique, on ne va rien vous dire. Vous avez écrit vos choses-là et on ne va pas vous dire que ceci est un risque généralisé. Et finalement, ce qui va se passer, c'est que votre demande sera refusée. Votre demande est refusée. Et malheureusement, même si vous décidez d'aller en appel, parce que quand vous allez en appel, on doit déterminer où est l'erreur. Est-ce que l'erreur vient du commissaire ou bien l'erreur vient de vous? Si l'erreur vient de vous, si vous avez évoqué un risque généralisé, on ne peut pas vous donner raison en appel parce que le risque généralisé n'est pas dans les règlements. On tient compte du risque personnalisé. Ça veut dire qu'on sait qu'au niveau de la convention, si le demandeur d'asile évoque un risque généralisé, il n'a pas droit à la protection. Parce que sinon, on devrait protéger toute la population. Quand vous êtes à l'audience, c'est vous, uniquement vous qui êtes à l'audience. Ce n'est pas toute la population de Mimbalais, ce n'est pas toute la population de Grissier, je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes à l'audience. Et maintenant, je profite de ça pour vous dire que j'ai vu des personnes arriver au bureau, ils m'ont dit, oh oui, je viens de Mimbalet et il faut faire quelque chose pour moi, demander d'accélérer le processus. Je vous le dis, le gouvernement, la commission de l'immigration et du statut de réfugié n'est pas là pour surveiller ce qui se passe à Mimbalet, à Gressier ou bien, je ne sais pas, à Carrefour. Et on ne va pas s'ajuster en fonction de ce que les gangs font dans chaque ville en Haïti. Votre dossier est en traitement. Si vous devez avoir une audience dans 2 ans, dans 3 ans, ce n'est pas parce qu'il y a un événement à Mimbalet, un événement à Gressier, un événement à Poissonde qu'on va vous donner ça. Et lorsque vous venez au bureau pour nous dire oh oui, et j'aimerais que vous écriviez une lettre pour expliquer ça, vous avez encore la même habitude. Vous pensez qu'on peut toujours appeler quelqu'un pour faire quelque chose. Ici, on nous dit premier arrivé, premier servi. Et moi, je fais ce que l'on dit parce que je trouve que c'est la meilleure formule, premier arrivé, premier servi. Alors, pour les demandes d'asile, vous arrivez ici, vous avez 45 jours pour faire votre demande. Et s'il vous plaît, prenez le temps de trouver quelqu'un qui peut vous aider, vous accompagner, parce que c'est votre vie qui est là, c'est votre avenir. Si vous passez à côté, vous devriez retourner. Imaginez quand vous avez des enfants avec vous, et des enfants qui sont avec vous, et vous êtes obligé de quitter le Canada pour retourner. Parce que ne pensez pas que maintenant votre demande est refusée, vous allez retourner à nouveau aux États-Unis. Finalement, là, c'est comme si une vie de juif errant, c'est-à-dire que vous n'avez jamais de domicile fixe, et puis là, vous continuez à aller de pays en pays pendant que vous avancez en âge. À un moment bien déterminé, il faut stabiliser votre situation. Il faut se dire que maintenant, c'est le moment de rester dans un pays. Je choisis le Canada et à partir de là, maintenant, je dois vivre, je dois fonctionner et ma demande doit être faite suivant les normes. C'est ce qu'on vous conseille. Et si vous décidez d'aller avec l'aide juridique, c'est votre droit. Mais sachez que vous risquez d'avoir beaucoup, beaucoup de problèmes. Pour les demandes de considération humanitaire, pour ceux qui veulent faire ces demandes-là, parce que votre demande d'asile a été refusée. Là, maintenant, il faut prendre le temps aussi de préparer un dossier en bonne et due forme pour démontrer que, oui, vous êtes bien intégré au pays. Si vous vivez de l'aide sociale, vous ne pouvez pas faire une demande de considération humanitaire, à moins que vous soyez quelqu'un qui a un problème de santé et on reconnaît que votre état de santé ne vous permet pas de travailler. Mais si vous êtes toujours sur l'aide sociale, comment vous allez demander des considérations alors que vous ne faites aucun effort pour travailler? Ok? Si vous venez d'arriver, ça veut dire que vous êtes entré, mais on ne vous a pas donné la possibilité de faire une demande d'asile. Vous ne pouvez pas faire une demande de considération humanitaire dans 1 mois, dans 2 mois. C'est quoi? Comment vous allez démontrer que vous êtes intégré? Intégration veut dire travailler dans le pays, payer des impôts, avoir des amis, avoir un réseau d'amis. Ensuite, faire du bénévolat, on a beaucoup de facteurs à démontrer. Alors, je vois des personnes qui arrivent et qui disent, oui, tout de suite, je vais faire une demande de considération humanitaire. Moi, je ne fais pas pour vous de demande de considération humanitaire si vous venez d'arriver au pays, parce que je sais que cette demande-là sera refusée. Ça, c'est le premier aspect, l'intégration. Et deuxième aspect, c'est les difficultés. Et ensuite, dans la demande de considération humanitaire, il ne suffit pas de dire « Ah oui, si je retourne au pays, je ne vais pas avoir de travail. » Ça, c'est une phrase générale. Il faut démontrer comment vous n'allez pas trouver du travail. Et c'est ça qui manque souvent quand on doit démontrer ces niveaux de difficulté. Chers amis, je sais que la situation est difficile. Vous avez des proches à l'étranger. Vous ne savez plus quoi faire. Vous aimeriez que tout le monde arrive au pays. Mais malheureusement, il n'y a pas un pays au monde qui va accepter tout le monde. Le Canada fait de son mieux. Le Canada peut faire encore mieux. Et s'il vous plaît, c'est que quand vous avez cette possibilité-là de vivre au pays, quand vous avez cette possibilité de rester au pays, sachez que vous devriez prendre des dispositions pour que ça fonctionne. Nous sommes là derrière ce micro pour vous parler. Et nous ne parlons pas seulement à nos clients. Quand on donne ces nouvelles-là, c'est tout le monde qui bénéficie de ces nouvelles-là. Et on vous le dit parce qu'on est de bonne foi. On veut vous donner l'heure juste parce qu'on veut que vous réussissiez. Mon objectif, ou bien Mon intention, c'est que si moi, je pouvais aider tous ceux qui viennent des États-Unis, tous ceux qui viennent d'Haïti ou qui viennent d'autres pays, si je pouvais aider ces gens-là à régulariser leur statut, je serais très content. Parce que pour moi, le plus important, c'est de faire une demande d'asile qui peut être acceptée et immédiatement. Vous n'avez pas besoin d'aller en appel. Ça veut dire qu'il faut que votre dossier soit préparé convenablement. Alors, malheureusement, vous n'écoutez pas des conseils ou bien vous écoutez des conseils des amis qui vous disent n'importe quoi et vous allez payer les conséquences. On vous invite à nous suivre. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur TikTok également, nous sommes sur plusieurs stations de radio et vous pouvez nous suivre. Vous avez les numéros de téléphone. Si vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'une consultation, vous avez à ce moment-là à contacter le bureau au 438-876-9398, 438-382-9398, 438-385-9398. Si la personne est en Haïti, elle peut contacter le bureau en Haïti au 48-20-78-18. Vous avez le site internet de Vision Max Service, www.visionmaxservice.com. On fait de notre mieux pour vous donner des outils afin de nous contacter, mais cependant, il faut respecter les heures de bureau. Les heures de bureau sont du lundi au vendredi.
Vivre dans une maison saine, travailler dans un bureau sain nécessite l'expertise de Angel Service de nettoyage. Angel, c'est numéro 1. Il montrait qui ça y fait déjà. Personnel qualifié. Il a utilisé produits qui recommandaient. Protégez votre espace santé avec Angel. Prix abordable. Nos services, aménagement et déménagement. Nettoyage en profondeur et léger. Événement spécial. Nettoyage de bureau, etc. www.angelservice.com. Nettoyage.com, service au pluriel. Moun nan djou, il y a une compagnie nettoyage. Après job là, qui ti bagay marron kap machate à la. Pas quitter sa rive ou, relé Angel Service. Votre santé d'abord. 438-989-1120. Relé Angel, tande pou yo pas cacher quoi ou.
Deja que el ritmo se apodere de tu cuerpo. La compañía de danza Vías presenta gratuitamente la Maison de la Culture su espectáculo Sabor de mi Corazón, capítulo 1, Cumbia. Te espero un viaje festivo por la historia y el patrimonio musical de la cumbia. Más información sobre la Maison de la Culture y reservas de entradas en montreal.ca. Un message de la ville de Montréal.
C'est un moment pour décider si vous avez renouvelé Bayou ou non. Si vous augmentez le loyer Kaila, ou pas obligé d'accepter. Informez-vous sur le droit que vous gagnez. Commencez à chercher si vous avez intention de déménager. Puis bonheur, puis bon. Pour joindre un logement à bon prix, c'est pas facile. Pour plus d'informations, consultez montréal.ca. C'est un message de la ville de Montréal.
Radio Centre-Ville appelle, rappelle, interpelle, et ceci pour une société juste et équitable. 102.3 FM.
Dans ce monde un peu fou, où on ne sait plus à qui ou à quoi faire confiance, je veux que tu saches que ton cœur est fiable et que les bonnes personnes existent encore. Entre ciel et terre se voudra un havre de paix, une bulle d'amour où nous échangerons sur la vie, ses défis, ses joies, ses peines, ses contradictions, sans filtre et sans jugement. Entre ciel et terre, un monde où la foi, l'espoir et l'amour seront rois et maîtres de doux moments créés par nos conversations presque nocturnes. Je suis Claudine Hilaire, Clos pour les intimes, pour toi, dès le mercredi 2 octobre à 23h, sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102.3 FM. Entre ciel et terre, au plaisir de bâtir avec toi un monde nouveau, une heure à la fois.
Radio Centre-Ville, 102.3 FM.